French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Et puis, ouais, faut être solide dans son couple. Je veux dire, les gens qui partent en se disant... Bah, c'est comme les gens, je pense, qui font un enfant en se disant « ça va pas super, mais ça va consolider ». Là, c'est pareil. L'immigration, c'est comme un bébé, quoi. Si c'est pas super dans ton couple, bah, ça risque d'être dur. Parce que oui, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Et puis, ça s'organise. L'organisation, c'est compliqué. Donc voilà, faut faire partie de tes affaires. Voilà, donc il y a mille et une choses à penser. En tout cas, si les gens s'ennuient dans la vie, faites un immigré. Ça va vous occuper quand même un certain nombre de mois.
Ça va vous faire du bien.
Ouais. Ça va vous occuper l'esprit.
Attention, vous vous apprêtez à écouter la suite du récit de Magali Badolo, une infirmière lyonnaise qui a décidé de recommencer un peu tout à zéro depuis le Canada avec sa famille. Si vous n'avez pas écouté la première partie de son récit, je vous invite à le faire, ça donnera plus de sens à votre écoute. Et sinon, je vous souhaite une merveilleuse écoute à la découverte du parcours désormais canadien de Magali et de sa famille. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Merci d'être là. C'est parti, direction Canada.
Salut Anne-Fleur, je m'appelle Marc, j'ai 42 ans, je suis donc le mari de Magali. Je viens de la Martinique, je suis arrivé en France, j'avais 18 ans. Et puis maintenant je me retrouve au Québec avec toute ma petite famille, quoi. Donc moi, j'ai été musicien, j'ai été moniteur auto-école, j'ai fait un peu de mécanique automobile. J'espérais pas grand-chose, parce que je partais du principe que les Québécois vivent très bien là où ils sont, comme ils sont, et que personne ne nous attend. Donc au final, j'espérais rien du tout, juste en fait à m'intégrer. J'aime bien les gens, de manière générale. J'aime bien discuter, je suis assez ouvert, donc au final ça m'intéressait d'aller voir en fait dans un autre pays où ça parle français, eux comment ils vivent en fait. J'ai déjà eu le premier modèle, mon modèle de base en Martinique où c'est français, ça parle français et puis on vit comme ça et puis après en France ça parle français, c'est toujours la même langue, c'est toujours le même pays et avec le même système social, etc. Et c'est une vie complètement différente. Et puis, maintenant au Québec, du coup, c'est un autre système social, c'est un autre pays, etc. Il y a toujours le français. Mais au final, je découvre en fait des gens en fait, qui ont un autre mode de vie, qui ont beaucoup de choses en commun en fait, avec la France. Et en même temps, en fait, ça reste assez éloigné. C'est assez intéressant ce truc-là. Mais voilà quoi, j'avais pas de souhaits particuliers. Je n'avais pas imaginé de choses, construire en fait certaines choses dans ma tête en me disant ça va être comme ça ou ça va être comme ça, etc. Ce qui a été un petit peu mouvementé, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était vraiment en fait au niveau de l'organisation. J'avoue que sur ça, Magali a été excellente parce que moi, tout ce qui est papier, ce n'est pas mon truc. Donc, elle s'est vraiment occupée de tout. Comme j'aime bien le dire, en fait, moi, je faisais ce qu'on me disait de faire. Je signais là où on me disait de signer. Mais voilà, quoi, je ne me suis pas occupé de tout ça. Par contre, toute l'orga, tout le truc pratique de vraiment bouger, ben voilà quoi, ça je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi éprouvant, mais au final ça s'est fait. Et puis j'ai pris les choses comme elles venaient, en essayant de m'organiser au mieux avec mes capacités d'organisation qui sont pas, on va dire, les plus performantes. Sur le côté, en fait, espérer quelque chose, non, j'avais pas d'idée préconçue, j'avais rien en fait de prévu dans la tête, en fait, juste découvrir et puis s'adapter à ce qui, voilà, là où on est.
À ce moment-là, tous les quatre, vous êtes au clair, vous vous lancez dans cette procédure. Tu disais que ta maman habite juste à côté de chez vous. Comment ça se passe, l'annonce auprès de ta maman?
Comme c'est pareil, c'est comme avec les filles, en fait. Comme j'étais en mode blague, je disais machin. Puis elle m'avait dit une ou deux fois, arrête de dire ça, parce que c'est comme si vous étiez déjà parti, en fait, comme s'il y avait une décision qui était prise et alors que rien n'est fait, quoi. Donc pour elle, c'est difficile. Parce que on est tout à côté, elle est à côté de ses petites filles, donc elle les voit en sortie d'école, voilà. Donc c'est pas évident.
Ouais, ça fait beaucoup de changements en prévision, du coup elle a appris progressivement, quoi.
Progressivement.
Ça n'a pas été une claque.
Non, je suis pas arrivée un matin en lui disant maman, demain je pars vivre. Mais pour autant, je pense que peu importe comment tu le dis, c'est quand même pas simple. Elle a jamais bougé non plus de là où elle est. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est question de moyens aussi, financiers. Hein. Mais c'est sûr que c'était pas facile. Pour ma belle-mère aussi, je pensais que ça aurait été plus simple pour elle parce que Marc, il était déjà parti de Martinique en métropole. Et puis elle, après, elle est venue parce qu'elle avait ses trois fils ici, donc elle s'est dit que ça sert à rien de rester là-bas. Mais en tout cas, elle les avait déjà vus partir. Et puis finalement, c'était dur, c'était difficile pour elle, plus que ce que j'aurais imaginé. Ouais. Le fait de, quand on faisait les bagages, tout ça, elle venait chez nous, dormir chez nous. Les périodes où on commençait à faire les cartons et tout, c'était difficile. Ouais. Donc, même si elles étaient contentes pour nous, parce que c'est quand même un beau projet, ça reste que c'est loin. C'est pas la Bretagne.
C'est loin, et puis vous n'êtes pas partie en vous disant... Vous partez en vous disant quoi? On part pour combien de temps?
Rien.
Justement, c'est ça qui peut être difficile pour l'entourage.
Oui, c'est ça. Quand tu dis que tu pars pour 2 ans, il y a une échéance. Donc, tu te dis, c'est 2 ans. Mais bon, j'ai envie de dire, même si tu dis que tu pars pour 2 ans, si ça se trouve, tu pars pour 2 ans et puis tu ne reviens pas non plus. De la même manière que si tu te dis que tu pars pour la vie, au bout d'un an, ça se trouve, tu te dis, je me suis complètement trompée. Et puis, donc nous, on part en se disant quand même, c'est un gros investissement. Et en temps, puis en énergie et en argent. Hein. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas rester 6 mois. Moi, j'ai un contrat de travail de 3 ans. Pour mon permis de travail pour rester sur le sol, là, c'est 3 ans. Donc, on s'est dit au moins ça, voire plus. Mais vraiment, là, même aujourd'hui, je ne saurais pas te dire... On est super bien là où on est, mais je ne saurais pas te dire... ce qu'on va faire. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on reste pas? Est-ce qu'on va ailleurs qu'à Sorel? Est-ce qu'on va en France, mais ailleurs que là où on était? Et puis, moi, j'ai dit plein de fois jamais dans ma vie. J'avais dit jamais je travaillerai au bloc opératoire et j'ai travaillé au bloc opératoire. J'avais dit jamais je quitterai Rieux et regarde où je suis. Donc maintenant, j'arrête de me projeter sur quoi que ce soit. Je fais ce que j'ai à faire sur le moment. Tu te projettes un minimum quand même sur la courte distance, mais... Si tu me dis dans 3 ans où est-ce que tu te vois, j'en sais fichre rien parce que on verra. Ce qui n'était pas du tout mon cas avant.
Avant, tu avais tendance à avoir un itinéraire tout tracé.
Moi, j'allais mourir dans l'appartement où je vivais, en fait. Je me posais même pas la question. Donc là, je me dis rien du tout. Je vis ma vie et puis on verra bien.
Alors, donc, du coup, donc, vous vous lancez donc, côté boulot, OK. Ça s'accélère d'un point de vue immigration. Comme tu dis, maintenant, tu as un permis pour 3 ans. Et le fait que tu puisses venir, maintenant que vous êtes mariés, du coup, tu peux sponsoriser l'immigration.
Alors, même si on n'était pas mariés, on ne s'est pas mariés pour... Il y en a plein de gens qui nous ont dit « Oui, vous êtes mariés parce que vous partez au Canada. » En fait, pas du tout. Ouais. On s'est mariés.
Non, mais ça aurait pu aider. Enfin, je pensais
oui,
en tout cas que
mais pas, non, en fait, d'accord. Non, parce que en fait, il suffit d'être conjoint de fait depuis plus d'un an, c'est-à-dire être sur la même facture d'électricité ou j'en sais rien quoi. Donc nous, comme ça faisait quand même 21 ans, c'est bon. Donc non, ça a pas facilité. Enfin, ça a rien fait de plus ni de moins. Donc Marc, lui, ça lui offre un permis de travail de la même durée que le mien. Mais lui, c'est un permis de travail ouvert. C'est-à-dire que moi, je suis lié, c'est un permis de travail fermé. Je suis lié à mon employeur pour 3 ans. C'est-à-dire que si je veux aller travailler dans une autre région du Québec, il faut que je refasse tout le processus là, de papier avec cet autre employeur pour qu'il puisse m'embaucher.
D'accord.
Je peux changer d'hôpital. En fait, je peux changer de structure, d'hôpital ou quoi, mais qui reste dans le même regroupement des 3 hôpitaux dans lesquels
je suis. Ah oui, d'accord, c'est un groupe.
C'est un groupe. Ils font en région, en fait, ils ont des groupements d'hôpitaux. Donc, je peux changer d'hôpital au sein de ce groupe. Mais si je veux changer carrément de région, c'est toute une histoire. Voilà. Mais, et en tout cas, Marc, lui, ça lui offre un permis de travail ouvert. C'est-à-dire que lui, il peut travailler où il veut. Donc, on l'annonce comme ça, un peu au fur et à mesure, aux gens, aux collègues de boulot. Alors, c'est difficile parce que je sais qu'il y a des gens qui fuient un pays, une famille, des amis, un endroit qui déteste, une vie qui déteste, qui n'est pas du tout notre cas. Moi, franchement, j'avais des super bons collègues, mais on s'entendait mais super bien. On se voyait en dehors et tout. Vraiment une belle équipe. Avec la famille, tu vois, ça allait aussi. Bah, après, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les familles.
Oui, comme tout le monde. Ouais.
Mais vraiment, on fuyait rien du tout. Donc, de dire aux gens, ça les étonnait, en fait. Parce qu'on n'en avait jamais parlé, déjà.
Et ouais, puis, donc ça sortait un peu de nulle part, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc,
mais pourquoi
Ouais, c'est ça. Et puis, il y a des gens, moi, clairement, qui m'ont dit « Je te crois pas. »
c'est un canular, tu te fous de moi.
Bah, en fait, c'est que moi, comme j'habitais où j'ai grandi, il y a un gars qui m'a dit « Mais c'est pas possible que tu quittes Rieux, c'est pas possible. »
Ah ouais, c'était tellement pas dans ton champ des possibles, les gens ne s'imaginaient pas du tout.
Parce que moi, voilà, tu travailles là où tu habites, enfin, je veux dire, voilà... Donc, c'était étonnant pour tout le monde. Et puis, en même temps, beaucoup de soutien. Mes tantes, les frères de Marc, tout ça, ouais, c'est... Comme quoi, oui, c'est un bon choix. Enfin, faut le faire, faut essayer. Et puis, vraiment du positif, du soutien. Donc, ça, c'était cool, ouais.
Message reçu le 4 novembre 2022.
Salut Anne-Fleur, je viens de donner quelques nouvelles et on vient de franchir une nouvelle étape dans ce projet d'immigration. Donc j'avais eu rendez-vous il y a quelques jours là avec les personnes de recrutement Santé Québec pour qu'ils m'expliquent le contrat de travail. Et donc là, ben, je l'ai signé aujourd'hui et donc je l'ai renvoyé à l'établissement dans lequel je vais travailler comme infirmière. C'est bizarre parce qu'en fait, je ressens rien de spécifique et en même temps, je me dis, ouais, c'est quand même un gros morceau, quoi, de signer un contrat de travail avec un hôpital au Québec. Franchement, on m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais pas cru du tout. Concernant les enfants, les filles, écoute, ça va plus ou moins bien. C'est surtout la petite, en fait, Mélissa, qui a 7 ans et du coup un jour ça va et puis un jour elle dit moi j'ai pas envie de déménager donc c'est vrai que ça fait un peu peine parce que du coup on n'a pas envie trop de la contrarier mais d'un autre côté on sait aussi que c'est bien pour elle de voir autre chose et c'est ce qu'on essaye de lui expliquer. En fait elle a l'impression qu'en partant on abandonne notre famille. Et du coup, ça la rend triste de ne plus les voir autant qu'elle voudrait, comme on le fait actuellement. Donc voilà, on lui a expliqué qu'en aucun cas, on n'abandonne personne, en fait, derrière nous. Et que ça sera des relations qui seront autres, mais qui ne veulent pas dire que
qu'on n'aime pas les membres de notre famille, les cousines, les cousins, les mamies, tout ça. Mais du coup, ouais, pour elle, c'est un peu difficile parce qu'elle est très, très fusionnelle en plus. Voilà. Donc, du coup, un jour, ça va, elle est contente parce qu'elle se dit oui, qu'elle va pouvoir faire de la luge, du patin à glace, de la planche à paillets, comme ils disent, donc du paddle, tout ça. Mais d'un autre côté, voilà, ça l'embête pour la famille. Elle ne me parle pas trop des copines, mais surtout vraiment la famille. Et donc, Naël, la plus grande, elle ne dit pas grand-chose, en fait. Elle est assez discrète hein, comme fille. Elle a 13 ans, donc elle est dans la préadolescence, là. Donc voilà, elle n'exprime pas toujours aussi ce qu'elle ressent. Elle, sa grande problématique, c'était de savoir s'il y avait un club de natation avec des entraînements et des compétitions. Donc là, de ce point de vue-là, elle est rassurée parce qu'effectivement, il y a un club de natation. Elle se questionne un peu sur le collège, enfin, qui du coup s'appelle là-bas le secondaire, donc savoir comment ça fonctionne tout ça. Mais pour l'instant, elle ne dit trop rien. Mais la connaissant, en s'approchant petit à petit de l'échéance, ça va commencer à la travailler un peu. Et puis, Marc, lui, tout va bien. Lui, il est dans l'attente du départ et il se projette bien. Notre problématique, là, en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'appartement ? Parce qu'on est propriétaire. Au départ, on voulait le garder parce qu'on l'aime bien, en fait. Et il faut que les loyers puissent couvrir les montants qu'on paye en crédit immobilier, en assurance. Et ce n'est pas simple. Donc, je pense que le montant du loyer auquel on pourrait le louer ne couvrira pas forcément les dépenses. Donc, l'objectif de l'immigration, ce n'est pas non plus de garder quelque chose ici et de le payer, en fait, là, avec nos dollars canadiens. Donc, on est en train de voir si, du coup, on ne le vendrait pas. Moi, je n'ai pas de problème spécifique avec la propriété. On l'avait acheté parce qu'effectivement, plutôt que payer 900 euros de loyer, autant payer 900 euros de crédit immobilier. Après, c'est un appartement qui est dans la ville où j'ai grandi, où il y a ma mère et où les filles vont à l'école, dans la même école que moi quand j'étais petite. Du coup, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon. Très sincèrement, s'il faut le vendre, il n'y a pas de souci. Sachant qu'en plus, je me dis que si on doit revenir, est-ce qu'une fois qu'on est parti, on a envie de revenir exactement au même endroit d'où on est parti ? Ça, je ne sais pas. Sans dire que ce soit un retour en arrière, mais est-ce qu'on a envie de faire ça ? J'en sais rien. Donc, en tout cas, je n'ai pas envie d'avoir ce poids-là, cette charge mentale et financière avec cet appartement. Donc voilà, donc la décision n'est pas prise pour l'instant, mais c'est le gros point, la grosse question du moment. On a été aussi en octobre à un événement qui s'appelle les Journées du Québec. C'est organisé par un organisme qui s'appelle Objectif Québec, avec un point d'exclamation. C'est un organisme avec qui on avait déjà été en contact, avec la fondatrice Christelle qui a créé Objectif Québec pour accompagner les Français qui ont un projet d'immigration. Donc, on a adhéré à cette association, sachant que c'est un accompagnement qui est gratuit. Donc, il y a un groupe Facebook privé. Il y a tous les mois des rencontres en visio avec des experts en fait, de l'immigration. Donc, un avocat en immigration, il va y avoir la banque, tout ça. Je vais le dire tel que je le pense sincèrement. Je trouve que c'est une très bonne idée voilà, d'accompagner les Français pour un projet d'immigration. La fondatrice, Christelle, elle dit régulièrement qu'elle dit les vraies choses aux gens. Et effectivement, il n'y a pas de langue de bois. Et puis, c'est la réalité du Québec et de l'immigration. Et ça, j'adhère complètement à ce point de vue-là. Ce qui me gêne un peu, moi, c'est le côté que je ressens un petit peu infantilisant. C'est-à-dire qu'il y a des termes comme, par exemple, « je vais vous aider à devenir des bons Français ». Ou des choses qu'elle va pouvoir dire qui, à mon goût, sont un peu infantilisantes. Et j'ai un peu de mal avec ça. D'un autre côté, j'imagine qu'avec l'expérience qu'elle a, elle s'est retrouvée avec tellement de Français qui arrivent avec des clichés en tête. L'impression qu'en fait, on les attend. L'impression que le Québec, c'est une petite province francophone avec nos cousins québécois. Et en fait, tous les clichés qu'on peut avoir sur le Québec, ici en France. Et je pense qu'elle a eu déjà tellement d'exemples de gens un peu mégalos, hein, faut dire la vérité, hein, parce que je les vois sur les groupes Facebook, les gens qui croient que ça y est, déjà, un, ils arrivent en terre promise, et deux, on les attend et on va leur dérouler le tapis rouge. Et puis avec un petit fond d'Eldorado quand même au coin de la tête. Donc je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle a ce discours-là tel quel. Donc je ne veux pas me mettre au-dessus du lot et me dire que oui, moi j'ai bien compris que ce n'était pas si ça là, voilà. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas dans un état d'esprit, en fait, de conquête ou d'arriver voilà, là où on m'attend. Je sais que ça va être difficile, que l'immigration, ce n'est pas simple et c'est simple pour personne. Et moi, je suis au contact de personnes qui ont immigré ici en France et je sais que les processus d'immigration, ce n'est jamais simple, en fait, quoi qu'on fasse. Donc voilà, donc on va suivre les visios et c'est toujours très intéressant, les échanges, tout ça. Et puis c'est bien d'être en même temps avec des personnes qui ont le même projet que nous, avec les mêmes interrogations, et de pouvoir aussi s'entraider dans ça. Mais voilà, je voulais juste préciser cette petite chose, parce que voilà, je tiens à être honnête dans cette démarche de processus, et pour expliquer ça, bah, qui voudra bien l'entendre, hein. Quand je dis ça, c'est vraiment pas de blesser les gens ou quoi, mais voilà, c'est juste un ressenti. Donc la prochaine étape, eh ben, en fait, c'est la constitution du dossier d'immigration. J'attends le retour de la personne avec qui je suis en relation à l'hôpital quoi, au Québec, pour qu'elle me donne les prochaines démarches à effectuer. Eh ben écoute, à bientôt. Gros bisous.
Ma liste n'arrêtait pas. Je veux dire, tu barres un truc, tu rajoutes un truc, et puis un autre, et puis t'es happé par ça tout le temps. Je sais pas, t'es en train de faire quelque chose et tu te dis, oh putain, merde, c'est vrai, faut pas que j'oublie de faire ça. Voilà, il y a toujours plein de trucs que t'avais pas pensé, ou des choses auxquelles t'as pensé, mais t'avais mal pensé. Enfin, tout est. C'est pas. Alors, je me dis, en plus, ça devrait être facile parce qu'on est au 21e siècle, mais. Alors, il y a Facebook, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose dans la vie, mais en tout cas, tu trouves les informations super facilement. Je veux dire, je ne suis pas partie au 18e siècle en bateau.
Oui, c'est vrai. Enfin,
sans savoir ce que...
Sans savoir si tu pourras un jour revenir.
Mais c'est ça, ni à quoi t'attendre. Je veux dire, là, je regardais sur Google Maps l'appartement qu'on a trouvé. Je veux dire, et malgré tout, c'est émouvant quand même. C'est éprouvant, en tout cas. Et puis, ouais, il faut être solide dans son couple. Je veux dire, les gens qui partent en se disant... Bah, c'est comme les gens, je pense, qui font un enfant en se disant « ça va pas super, mais ça va consolider ». Là, c'est pareil. L'immigration, c'est comme un bébé, quoi. Si c'est pas super dans ton couple, ça risque d'être dur. Parce que oui, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Et puis, ça s'organise. L'organisation, c'est compliqué. Donc voilà, faut faire partie des affaires, voilà. Donc il y a mille et une choses à penser. En tout cas, si les gens s'ennuient dans la vie, faites un immigré, ça va vous occuper quand même un certain nombre de mois.
Ça va vous faire du bien.
Ouais. Ça va vous occuper l'esprit. Donc voilà. Donc ouais, c'est ça. Donc faut choisir comment tu fais partie des affaires. Est-ce que tu les fais partir ou pas? Avec quoi tu pars? Est-ce que t'emmènes tout? Est-ce que t'emmènes rien? Je sais qu'il y en a qui partent avec 4 valises, il y en a qui partent avec toute leur maison. Donc, qu'est-ce que tu fais? Combien ça coûte? Il faut trouver un appartement. À distance, c'est compliqué. Parce qu'on te demande un score de crédit, quoi.
Ah, c'est la même chose, c'est vrai,
ouais,
au
c'est
Québec.
Ça.
Tu veux expliquer ce que c'est? C'est un truc dont on parle de temps en temps
En fait,
aux États-Unis.
Ici, ils ont une carte. Enfin, il y a deux cartes pour payer. Tu as une carte de débit, une carte de crédit. Ta carte de crédit, tu l'utilises pour acheter tes affaires et tout ça. Et puis, tu le rembourses, il faut le rembourser dans les temps. Et ça te donne une note. Et puis, si tu es bien noté, ça veut dire que tu es un bon payeur. Donc, on peut éventuellement te prêter de l'argent pour acheter une voiture. On peut te faire confiance pour louer un appartement, tout ça. Sauf que nous, on n'avait pas d'historique de crédit puisqu'on vivait en France. Donc c'est ça. Il y a des gens, et je les comprends, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec des gens qui immigrent. Alors que franchement, il y a tellement pénurie de logements Que tu mets une annonce, c'est sûr, une heure après, il y a quelqu'un qui a la loué, quoi. Donc les gens, ils n'ont pas envie de se casser la tête avec ça. Donc, ouais, trouver un appartement à distance, c'était chaud. C'était ma mission de chaque jour. Tous les jours, je me levais, j'ouvrais un œil, bam, je regardais les annonces, tout ça. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est de la chance ou pas. Marc, il dit, ce n'est pas de la chance parce que j'étais tout le temps sur les sites. Donc, en fait, voilà. Donc, franchement, puis j'ai été honnête, j'ai appelé le mec. Enfin, j'ai vu l'annonce. J'avais déjà contacté des gens, puis ça n'avait pas abouti. Là, j'ai vu l'annonce, j'ai appelé le gars en lui disant, ben, voilà, nous, on n'est pas encore là. Par contre, ouais, je n'ai pas d'historique de crédit. Moi, on va immigrer. Donc, tout ce que je peux vous donner, c'est comme quoi je paye mes échéances de crédit ici de notre appartement. Comme quoi, ben, on paye. Et puis, ben, ma lettre d'embauche d'infirmière, quoi. Donc, et puis, on a eu la chance, le monsieur, le propriétaire, il est immigré lui-même.
Ah ouais.
Donc, ça fait 15 ans qu'il est là.
Une sensibilité particulière.
Et puis, il m'a dit une chose qui m'a super étonnée, parce qu'en France, ben, on ne m'aurait pas dit ça. Il m'a dit, puis en plus, les infirmières, on sait que vous gagnez bien votre vie, donc il n'y a pas de souci. Ah, je me suis dit, merde. Ouais. Ah, putain, j'ai dit à moi, tu te rends compte, c'est tout le gars, il m'a dit ça et tout. J'étais choquée. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est cool. Et puis finalement, comme j'étais la première à avoir appelé, eh ben, il avait fait des visites. C'était une Fanny, c'est la fille qui nous a beaucoup aidé à Sorel, que j'ai rencontrée sur Facebook, qui m'avait parlé de Sorel, qui allait visiter, puisque c'était une fin de semaine. Donc, elle allait visiter pour nous. Et puis, du coup, on a eu l'appartement comme ça. Mais voilà, tout faire ça à distance, c'est compliqué. Choisir un mec des déménagements, c'est pareil. Il y en a qui ont des mauvaises réputations. Il y a des avis. Sur les avis, il y a ceux qui sont contents, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui n'ont rien dit. Alors, tu ne sais pas s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents. Moi, j'avais peur que mon conteneur tombe dans l'océan. Donc, je me suis dit, tu mets ta vie dedans.
On a fait un épisode où je crois que c'est arrivé justement à quelqu'un à Abu Dhabi. Le conteneur est tombé
ça.
Au fond du
non,
port.
Mais franchement, non, mais ça, c'était ma hantise. Donc, c'est ça, il faut réfléchir. Je m'étais dit, mais non, ça, je ne peux pas mettre dans le conteneur parce que s'il tombe au fond de l'eau.
Ouais, qu'est-ce qui est remplaçable, qu'est-ce qui n'est pas.
Mais c'est
quoi,
ça.
C'est un peu ça. Bah,
il ne me disait rien, Marc, mais je voyais bien, des fois, il me regardait en se disant, celle-là, elle a viré, elle. Donc, ouais, c'est des choix. Ouais, faut pas.
Ouais, pas facile.
Bah oui. Tu dis tes habits, tu t'en fous un peu, tu sais, le livre de ton père, bon, ben non, lui, il va partir dans la valise avec moi, mais si ça se trouve, ils vont perdre ma valise, enfin voilà, tu vois, que ouais. Les trucs de folle comme ouais. Ça. Donc
t'étais un peu en mode, j'essaye d'anticiper tous les trucs.
Mais j'ai fait tous les essi possibles, imaginables, je pense. Tous les jours, j'avais un nouveau essi. Donc, c'est pour ça que je dis, franchement, si c'était pas Marc, moi, je serais encore en France. tranquille dans mon
épouse.
Salon
ouais,
arrivé,
ouais,
ouais franchement donc non parce que je serais encore à me dire ici hein. Donc c'est certain, donc en tout cas on a réussi à tout boucler, on a eu de la chance dans les papiers parce qu'ils annonçaient des délais un peu longs, je me disais oh là là on va jamais avoir les papiers avant août et finalement je sais pas on est tombé sur le bon gars de l'immigration, j'en sais rien, mais en tout cas on a eu super rapidement, enfin plus rapidement que ce qui était prévu, donc comme ça on a pu partir l'esprit plus ou moins tranquille. J'ai un problème avec l'immigration quand même. Mais non, c'est qu'en fait, ça fait peur. T'as toujours peur de te faire refouler. Même t'as rien fait. C'est comme quand tu croises la police, même si t'as rien fait. Je sais pas, il y a un truc, par exemple, à l'Aubine, ici. Les enfants, ils vont dehors demander les bonbons au Québec et tout. Puis à un moment donné, il y a la police qui fait la ronde pour voir si tout se passe bien. Et voilà. Il s'arrête à côté de nous. Et ma première idée, c'est de me dire « Merde !» Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» En fait, il voulait juste donner des bonbons à Mélissa. moi, j'étais trop choquée.
Mais après, je pense que ça s'apaise au fur et à mesure que tu vas passer la douane. Mais c'est vrai qu'en fait, tu dis « Cette personne a le pouvoir, en fait,
c'est
de
ça.
Tout flinguer notre projet. »
Je me disais « Mais t'imagines, il nous dit « Mais non, il manque ça et ça va pas. » Vous repartez, vous reprenez l'avion. Mais monsieur, j'ai plus de maison, mes affaires, elles sont peut-être au fond de l'océan. Donc, c'est. Je sais pas pourquoi je voyais toujours un monsieur qui me disait non en plus, hein, mais voilà, ça aurait pu être une dame. Mais c'est quand même éprouvant, ouais. Et puis, en même temps, je culpabilisais. Ça, j'ai pas dit, j'ai eu mille et une choses de culpabilité. Je culpabilisais parce que je me disais, tu te prends la tête avec ça, là. Je veux dire, tu fuis pas un pays en guerre. On va pas te dire, je veux dire, tu vas pas vivre sous un pont. Je veux dire, t'as de la famille, tout le monde est en bonne santé. Enfin, ouais. Je veux dire, arrête de faire chier, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui souffrent, qui fuient leur pays, qui immigrent, bah, comme mes grands-parents, hein, qui immigrent pour sauver leur vie, quoi. Donc, arrête avec tes trucs de bobo, là. donc
ouais, t'essayes de te raisonner sur tout ça, quoi.
Ouais. Puis tu culpabilises, je sais pas.
Message reçu le 7 juin 2023.
Salut Anne-Fleur, j'espère que tu vas bien. On est le jeudi 8 juin, il est 6h40. Je vais travailler, je prends 5 minutes pour faire cet audio. Donc hier, nos affaires sont parties. C'est-à-dire qu'on a pris le service d'un déménageur pour l'international pour emmener une partie de nos affaires. Donc, ils sont venus chercher les affaires hier pour les emmener dans un conteneur pour traverser l'Atlantique. Donc c'est un truc de malade. C'est beaucoup de travail, même si, franchement, on n'a pas tant d'affaires que ça, parce que ça fait quelques années que j'essaye de plus accumuler, en gros, les choses inutiles. Mais quand même, franchement, il y a quand même du boulot. Et je me dis, ouais, mais... les gens qui ont 4000 paires de chaussures, 36 000 vêtements, ça doit être l'enfer. Donc voilà, je m'étais préparée quand même à l'avance, trier un peu les affaires des filles, qu'est-ce qu'on voulait emmener, pas emmener. Mais c'est pas évident. Pour Mélissa, par exemple, c'était pas facile de faire le tri un peu des jouets. Bah, on peut pas tout emmener, on peut pas emmener tous les bébés, on peut pas emmener toute la dinette. Voilà, donc on a fait du compromis, on a emmené les choses... qu'elle voit depuis longtemps et qui vont, je pense, pour être des repères, en fait, quand on sera là-bas. Anaël, elle, ouais, bah, l'adolescence, vu qu'elle vit sa vie dans la piscine, de toute façon, au-delà de ça, elle n'a pas beaucoup d'affaires, des affaires, beaucoup des stylos, du matériel créatif, quoi. Donc ça, elle a pu bien tout emmener. Et franchement, elle a fait un super tri... vraiment de nous tous, c'est elle qui a le moins d'affaires, franchement. Elle a fait un super tri, c'est super. Marco, il y a toutes ses affaires de musique, toutes ses composants électroniques pour faire ses soudures, tout ça. Et moi, le gros problème, c'est les bouquins, franchement. Même si ces dernières années, j'ai vraiment réduit le nombre de livres, je garde vraiment ceux que j'ai depuis longtemps, ceux qu'on m'a offert et ceux que je vais relire. Franchement, j'ai une masse de livres, c'est quand même fou. En les comptant, en fait, je me rends compte que j'en ai quand même pas mal. Donc, il y en a certains qui vont rester chez ma sœur, et puis il y en a d'autres qui vont venir quand même, parce que moi aussi, j'ai besoin de repères dans notre nouvelle vie là-bas. Enfin, c'est pas une nouvelle vie, c'est celle-ci qui continue, mais voilà, dans une nouvelle aventure, on va dire. Donc, il y a 54 colis quand même, franchement, c'est... Ça fait pas mal de choses. Là, la maison, ça résonne dans l'appartement. On a un BZ et des chaises de jardin dans le salon. Donc, ça fait vraiment salon d'étudiant, quoi. Mais bon, franchement, on peut pas se plaindre, parce que comme on ne peut pas emmener l'électroménager là-bas, c'est pas les mêmes normes électriques. Donc, en fait, on a tout pour bien vivre là ces dernières semaines. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis claquée. Je suis fatiguée parce que déjà c'est de l'émotion, hein, quand même, de se dire que voilà, nos affaires, elles sont parties. Du coup, nous, on va suivre bientôt. C'est fatigant aussi de pas se tromper, c'est-à-dire pas envoyer des choses qu'il fallait garder avec nous, faire attention de rien oublier, parce que ce qui est oublié, volumineux, ça va rester là, en gros. Donc je pense que je vais découvrir 2-3 petites pépites comme ça dans les placards dans les prochains jours, mais bon, c'est pas très grave. Je suis bien fatiguée aussi parce que finalement, faut travailler, s'occuper des filles. Marc, il a été un peu malade, rien de grave, mais voilà, donc il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Donc ça a été fait à la dernière minute. Et la charge mentale, même si il aide, même si il fait sa part du travail, en fait, c'est pas qu'il aide, c'est qu'il fait sa part du travail aussi. la charge mentale, elle est quand même distribuée différemment selon qu'on est un homme ou une femme. Donc, je ne vais pas faire du féminisme là-dessous, mais c'est quand même une réalité. Parce que, ouais, il faut s'occuper de l'administratif en même temps. Enfin, voilà. Donc, voilà, je n'ai pas versé de petites larmichettes. J'avoue qu'il y a deux, trois fois, là, dans les derniers jours où j'étais un peu limite. Je ne sais pas pourquoi je m'interdis, en gros, de le faire. Mais du coup, ouais, là, je suis KO. Donc, je referai un audio très bientôt. Parce que là, je vais aller travailler et je vais être en retard. Donc, à bientôt. Bisous.
Culpabilise de partir déjà de la famille. Tu dis c'est une décision que tu prends toi, ils n'ont rien demandé, tu vois, ma mère, ma belle-mère, elles ont rien demandé. Et on leur impose en fait un choix. Mais chacun fait ses choix dans la vie, effectivement. Je veux dire, elles ont fait leur choix aussi, dans la mesure où elles pouvaient les faire. On ne peut pas se dire, bah non, je ne fais pas ça parce que... voilà. Donc c'est assez dur, mais ça fait quand même culpabiliser. Il y a la culpabilité de ouais, c'est ça, l'immigration, de se dire, ben, moi, je j'avais pas une vie malheureuse du tout, loin de là. Donc, pourquoi, enfin, de quel droit, en fait, tu fais ça? C'est con, hein. Je sais pas, surtout en ce moment, là, avec tout ce qui se passe. Bon, il y a toujours eu des problèmes dans le monde, hein, de guerre et compagnie. Mais je veux dire, entre l'Ukraine, Gaza... tout ça, je me dis, mais puis la Syrie, je me dis, c'est...
C'est beaucoup.
C'est compliqué. Ça me fait culpabiliser de faire quelque chose. Je trouve que c'est pas égoïste, mais je sais pas comment expliquer. Je me sens pas super à l'aise.
D'imposer tes choix, de...
Oui, puis je me dis ouais, il y a des gens qui le font pas par choix. C'est dur pour eux, la vie. Moi, c'était pas difficile plus que ça, quoi. Je veux dire, en étant en sécurité, avec un toit sur la tête et en bonne santé, parce que dans la vie, finalement, il n'y a que ça qui compte. Hein. Donc, ouais, c'est de mettre en perspective, moi, ma vie et mes choix avec le non-choix des autres. Pourquoi ils ont immigré, et puis c'est pas un choix. Eux, ils n'ont pas voulu, et voilà. Donc, bon, après, voilà, il faut peut-être que je fasse une psychanalyse, mais... ça, et puis le fait de partir de la France, même si on ne fuit pas, moi, j'aime bien la France et je l'aime pas en même temps, mais voilà. En tout cas, je suis très contente d'être française, même si on me considère pas forcément comme française dans mon propre pays, hein, ce qui est quand même...
C'est vrai ?
Ben, la couleur, on va dire que ça, y a un biais quand même avec certaines personnes.
Et c'est quelque chose que t'as ressenti au Canada aussi ?
Ben, au Canada, je suis française.
C'est pas la première
fois. Je suis française. Ouais. Mais comme j'ai pas une gueule de française a priori, parce que apparemment il y a des gueules de français, oui, d'autres qui en parlent. Du coup, ouais, je sais pas. Déjà, en France, en tant que femme, tu dois faire tes preuves plus que, on va dire, un mec pour un boulot, par exemple, pour qu'on te fasse confiance pour quelque chose, je trouve. Et en tant que femme de couleur, je trouve qu'il y a encore une petite marche de plus. Et puis, il y a des attitudes que moi, j'identifie comme racistes, même si les gens qui sont en face, eux, ils ne vont pas l'identifier comme ça. Par exemple, dans la santé, moi, j'ai entendu déjà des docteurs parler de patients, de patientes, souvent, avec des termes très négatifs, du fait de leur couleur. Je sais que la même histoire, personnes différentes, ils n'auraient pas eu le même discours.
Ah, c'est chaud.
Je sais que moi, j'ai des médecins...
C'est quand même du racisme ordinaire, tout ça.
Ah bah, c'est sûr. Je sais que moi, j'ai des médecins qui m'aimaient pas moi et qui aimaient pas ma collègue Karima, par exemple. Et ça se passait très bien avec toutes les autres.
Donc, les blanches, c'est ça que tu veux dire.
Je me dis, ouais. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose. Maintenant, j'arrive à le verbaliser. Avant, je disais rien. Mais maintenant, j'arrive tu vois, à te le dire et à le dire. Je sais qu'il y a certaines personnes, ils disent, ouais, ils ont un a priori, tu vois. Je sais pas quel stéréotype de merde, parce qu'on est au 21e siècle, hein, quand même, hein, je veux dire, à un moment donné, voilà.
C'est clair. Voilà.
Et puis, il y a des gens, de la part de qui c'est pas pardonnable. Par exemple, les grands-mères pas éduquées, tu vois, qui me disent « Ah, bah, vous parlez bien français quand même, je m'en fous parce que je me dis... Mmh, » Bah ouais, la pauvre... Bon, bah, voilà, c'est pas... Je parle que français, de toute façon, donc heureusement. Et en plus, je parle pas bien. Mais je me dis, non, des gens, je veux dire, t'as fait médecine, y a pas de raison que tu dises des trucs de merde comme ça. Je veux dire... Moi, j'ai eu des conversations houleuses sur, justement, les soins de santé pour tous. C'est... Je mets de l'eau dans mon coca, comme on dit, parce que... Donc, en tout cas, on parlait de quoi ? De la culpabilité. En tout cas, la culpabilité, c'est ça. C'est la famille, de l'immigration, et puis du système de santé. J'ai beaucoup culpabilisé, maintenant ça va mieux, de me dire que je quitte un système de santé qui ne va pas bien. Sur LinkedIn... J'avais fait une publication pour dire que voilà, j'ai eu mon équivalence de diplôme et tout ça, blablabla. Mm-hmm. Puis il y a une connasse sortie de je ne sais pas d'où, là. Je ne sais pas, on ne peut pas dire connasse peut-être. Non, une méchante qui est venue me dire, je ne la connais même pas, une Jacqueline, ouais. qui a effacé sa publication finalement, hein, parce qu'elle a eu quelques commentaires.
C'est vrai, elle a eu honte.
Mais moi, ouais, je l'ai quand même pris en capture d'écran parce que je me suis dit, ça, à mon avis, ça va disparaître à un moment donné. Mais bon, bref. Donc, en tout cas, Jacqueline est venue me dire, oui, en gros, t'as pas honte. Tu pars de France soigner d'autres gens alors que le système français, c'est de la merde. Et je laisse sur le carreau, voilà, les Français et tout ça. Pour gagner plus d'argent. Et comme quoi...
La pas du gain, voilà, Magali.
Exactement. Donc, j'ai répondu à Jacqueline qu'effectivement, j'avais pensé à ça, mais que quand bien même j'avais pensé, ça l'autorisait pas à venir me dire de la merde ici. Et que voilà. Mais j'ai eu cette culpabilité de me dire, ben oui, il manque de soignants. Moi, j'ai une compétence dans les soins infirmiers et je m'en vais avec cette compétence-là soigner d'autres gens ailleurs. Sachant que moi, c'est la France qui m'a aidée à être infirmière. C'est-à-dire que j'avais travaillé avant d'aller à l'école d'infirmière et comme il y avait pénurie, ben ils m'ont payé pendant le temps de mes études, pas une grosse somme, mais en tout cas une somme quand même, chaque mois pour pouvoir aller à l'école. Et donc ça, je me dis, ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé et qui me fait culpabiliser. Un peu moins maintenant, parce que je me dis, bah, l'armée, quand tu donnes quand ils te financent, c'est 8 ans. Tu dois 8 ans à l'armée après. Un hôpital, tu dois entre 3 et 5 ans. Je me suis dit, bon là, moi, ça fait 16 ans, 18 maintenant, ça va. Je pense que j'ai payé ma dette.
Ouais,
donc,
c'est ça.
Mais quand même, tu vois, j'ai ça. Mais après, je me dis, je suis infirmière. Partout où je vais aller, les gens, ils ont besoin de ma compétence en tant qu'infirmier. Voilà. Mais ouais, c'est quand même culpabilisant, ouais, je trouve. Mais bon, ça aussi, il faudrait que je fasse une psychanalyse, peut-être.
Non, mais la culpabilité, je crois que c'est un des sentiments qui est le plus discuté dans French Expat, parce qu'elle peut se manifester de plein de manières différentes. Ça peut être la culpabilité. Alors, je ne l'avais jamais entendu par rapport au métier, mais je l'entends, je le comprends aussi par rapport à l'entourage qu'on a sur place, par rapport à ce qu'on impose, entre guillemets, aussi à sa famille qui nous suit, à nos enfants. Et puis des fois aussi la culpabilité de ne pas ressentir de culpabilité, de se dire mais mince, pourquoi est-ce que je profite de la vie, bref, donc j'en ai entendu beaucoup et je trouve que c'est toujours intéressant parce que je crois que c'est un sentiment qui nous unit quand même tous et qui, j'ai l'impression, a fait beaucoup plus surface depuis la période Covid, en tout cas qu'on l'exprime beaucoup plus. Donc,
ben, en plus, je veux dire, moi, à part Jacqueline, personne m'a rien dit. C'est vraiment une construction de mon esprit, quoi.
Ouais, mais tu sais, de la même manière qu'on disait, on laisse un avis au resto quand on n'est pas content et pas forcément quand on est content. Malheureusement, tu peux avoir plein d'encouragement, il suffit d'une personne.
Mais c'est ça.
Pour que ça t'affecte beaucoup. Et
exactement.
En fait, ça, je pense que ça parle à tes insécurités aussi. Et c'est pour ça que ça te touche autant, quoi.
Bah là, en l'occurrence, comme j'étais déjà un petit peu soignée, Jacqueline, je l'ai bien envoyée chier quand même. Hein. Je lui ai dit
ouais,
qu'elle s'occupe de ses affaires. Mais, mais que... Voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a très justement dit, comme vous avez l'air quand même bien ému par cette situation, la santé recrute, hein, n'hésitez pas à postuler. Donc, ouais.
C'est clair.
Enfin, bref.
pilote du commandant de tout l'équipage. Ça nous fait un grand plaisir de vous appeler à bord de cet Airbus 330 à destination de Montréal. Temps de vol 7h49 minutes et nous prévoyons une altitude finale de 39 000 pieds, soit à peu près 13 000 mètres. En préparation pour le décollage, le grand respect d'attacher votre ceinture, de redresser le dossier de votre fauteuil ainsi que la palette devant vous.
Message reçu le 28 juillet 2023.
Salut Anne Fleur, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer de me mettre un peu par la cachée parce qu'il y a du vent. Et on est au Canada, ça y est. On est parti tout à l'heure, on a pris l'avion, nous quatre. Et là, on a récupéré nos bagages, on est passé à l'immigration. Les au revoir, c'était difficile. Et en même temps, comme t'as X milliards de choses à penser, franchement, du coup, t'as pas le temps en fait de t'arrêter, parce que il faut penser à l'étape d'après, quoi. Donc il y avait à l'aéroport ma mère, ma belle-mère, il y avait ma sœur et son mec. Donc c'était difficile. Moi, c'était dur parce que je me suis pas effondrée en fait jusque-là. J'ai essayé de tenir bon. Et de, j'aurais pas pensé, mais de quitter ma sœur, en fait, c'est, c'était là, en fait, où j'avais envie de pleurer, quoi. Donc, du coup, voilà. Mélissa, la plus petite, ça a été difficile. Elle a pleuré bien 20 minutes, le temps qu'on fasse l'embarquement. Puis après, elle s'est arrêtée parce que, il y a des trucs à faire. Après, il faut monter dans l'avion. Après, voilà, donc finalement, ça te speed pas mal et t'as pas le temps de t'arrêter sur tes émotions, en fait. Donc on va voir, j'attends le retour de Boomerang dans les dents dans quelques jours. Là, comment je me sens? Je suis très fatiguée. Je pense que mon cerveau, il pense que je suis en vacances en fait. Et que, je sais pas. Je pense que je réalise pas trop. Mais vraiment, je suis très contente d'être là. C'est le fruit d'un long travail. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oh là là, la chance, tu pars au Canada et tout, machin. » Et en fait, moi, je leur dis « ça n'a rien à voir avec la chance. » Et puis, c'est d'aller saisir sa chance aussi, quoi. Je veux dire, rien ne nous est tombé comme ça, tout cuit dans le bec. Vraiment, on est allé chercher ce travail, faire les papiers, les démarches, tout ça, c'est réunir l'argent. Donc non, ça n'a rien à voir avec la chance. Je sais qu'ils le disent pas méchamment, hein, mais j'aime bien le préciser quand même. Et ben voilà, donc ce soir, on va dormir là, on va essayer de manger. On n'a pas de voiture, hein, donc on va dormir là. On va manger ici, proposer à manger. Et puis demain, on récupère la voiture, le pick-up de location, pour pouvoir aller faire le dédouanement. Et ensuite aller à Sorel, où la mission principale va être de trouver des lits, parce que on va récupérer les clés du logement, mais c'est un logement vide. Donc j'ai réussi à prendre un matelas gonflable dans les 8 bagages, bien roulé. Mais bon, on va pas dormir à 4 sur un petit matelas gonflable, on est bien d'accord. Donc voilà, ça sera l'émission de demain. Donc j'essaierai de refaire un vocal demain. Bise.
Moi, j'avais pas pleuré jusqu'à l'aéroport, parce que j'en sais rien. Mais ouais, là, j'ai dû revoir à ma sœur, là, ça a ouvert les vannes. Mais les vannes, elles se referment vite, parce que comme je suis repartie dans le « et si on me refoule à l'immigration ?» Donc,
centrée sur l'objectif quand même, malgré tout, quoi.
Donc non, c'est dur, parce que tu te dis, tu pars, mais tu sais pas quand tu vas, quand tu vas les revoir. Ma mère, je savais qu'elle venait en décembre. Donc, mais ma sœur, je sais pas, en fait. C'est ambivalent, parce que j'étais triste, mais j'étais super excitée, et puis j'étais soulagée.
C'est l'aube d'une nouvelle aventure aussi.
Soulagée d'avancer, parce que c'est fatigant. Alors, c'est pas moins fatigant une fois que t'es arrivée sur le sol, mais tu te dis, c'est long l'attente. T'es passée par plein de choses, et dans l'avion, tu sais, tu t'assois, tu te dis, oh là là, mais... Pff. Et puis dans l'avion, t'as rien à faire, quoi. T'as qu'à attendre, en fait. À regarder des films avec tes enfants, voilà. C'était triste, mais c'était bien. En fait, il y a des moments, si tu veux, dans tout ça, là, où je me disais, là, ça change. Par exemple, les entretiens, tu dis, là, c'est un moment où ta vie, elle passe d'un état à un autre, en fait. y a l'avant, l'après, quoi. Je pense que le truc de la paperasse, l'immigration, les papiers, t'es récupéré ses bagages et tout machin, j'étais pas sur le coup, tu vois, j'étais pas, mon esprit n'était pas disponible pour ça. Mais c'est quand on est arrivé à l'hôtel, tu sais, t'as posé tes trucs et tout, et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que je fais? Donc, ouais, tu te dis, ouais, bah, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, c'est vraiment un autre chapitre de ta vie, parce que on dit, oui, c'est bien, tu vas changer de vie et tout. Moi, je n'ai pas changé de vie, j'ai gardé ma même vie, mais comme on n'a pas fui, c'est juste un nouveau chapitre, quoi. Et oui, là, tu te dis, ouais, c'est fou. Surtout quand tu n'avais jamais pensé à ça avant, quoi.
Ouais, c'est ça. En un an, du coup.
C'est ça, en un an et demi.
Vous avez complètement changé.
C'est ça.
Ce que vous avez fait. Et alors, les premiers jours, donc vous arrivez fin juillet.
C'est ça, le 27 juillet.
On se prépare. Oui, je me souviens parce qu'on a le même anniversaire de départ à l'étranger.
Ah ouais, cool.
Ouais. J'imagine que vous préparez la rentrée des filles et toi aussi, d'une certaine manière. Parce que ce que tu ne nous as pas dit, c'est oui, il y a des équivalences de réciprocité entre la France et le Québec, mais tu ne reprends pas ton emploi tout de suite. Est-ce que tu veux expliquer un peu comment ça marche?
Donc en fait, tu commences tout de suite, tu es payé tout de suite. Mais tu ne peux pas être reconnue infirmière clinicienne, parce qu'il y a différents grades d'infirmière ici au Québec, c'est très différent de la France. Pour pouvoir avoir une équivalence de diplôme, il faut que je fasse un stage de 75 jours. Alors, c'est 75 jours qui sont travaillés. Ce n'est pas 75 jours d'affilée, c'est 75 jours sur le plancher, comme on dit ici. Donc tu es dans un service avec une préceptrice, en fait. Donc, sur la première partie du stage, là, les 30 jours où tu as une préceptrice. Et puis après, il y a la fin du stage où tu es en autonomie. Mais tu ne peux pas être la seule infirmière clinicienne à prendre les décisions. Il faut toujours qu'il y ait une autre qui soit là pour t'aider si besoin et puis valider certaines choses. Et donc, pendant tout ce temps-là, tu as des entretiens avec la direction des soins infirmiers qui voient si ça se passe bien, si tu as des difficultés, comment elles peuvent t'aider. Et puis valider en fait que ton apprentissage se fait, quoi. Et à la fin de ça, c'est la direction des soins infirmiers envoie un document, le document pour dire que tu as tout validé, et c'est l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec qui te donne ton équivalence de diplôme, qui dit que tu peux enregistrer au Québec pour pouvoir travailler comme infirmière clinicienne suite à ton stage.
D'accord.
Et c'est valable que pour le Québec. Par exemple, si je veux aller travailler...
Ça va être des requirements spécifiques à chaque province, quoi.
Alors, je peux juste repasser tout le bazar, mais en tout cas, il faut l'ordre. Par exemple, je vais au Manitoba, j'en sais rien. Ben, il faut que je m'inscrive à l'ordre des infirmiers du Manitoba pour,
Ouais, c'est comme là-bas. Aux États-Unis avec les différents États. Ouais. Ça n'a pas les mêmes exigences.
C'est complètement différent de la France, parce qu'en France, c'est la France, quoi. Je veux dire, t'es infirmière et puis c'est pas parce que tu changes de région que... Voilà. Mais... Donc, il y a ce stage. Donc, on a fait la rentrée avec les filles le même jour.
Message reçu le 31 août 2023.
Salut Anne-Fleur, j'espère que tu vas bien. Il est 17h30 à peu près. Je te parle depuis le bord du fleuve Saint-Laurent, à 10 minutes à pied de chez nous. Donc, c'est un petit parc qui s'appelle le parc de la Pointe aux Pins. Donc, il y a des jeux pour les enfants, des petits bancs, le fleuve, des gens qui pêchent, une petite plage, on ne peut pas se baigner, mais voilà, tu peux marcher 2-3 pas au bord de l'eau. Et vraiment, c'est l'endroit que je préfère dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je l'ai vu déjà avec beau temps, mauvais temps, coucher de soleil, lever de soleil, suite à une insomnie. Et vraiment, c'est chouette. Et c'est bizarre, ouais, de faire un audio depuis ici parce que finalement, c'est un endroit que je regardais sur ma carte Google Maps depuis la France, quoi, il y a un mois, parce que ça fait un tout petit peu plus d'un mois qu'on est arrivé. Et donc voilà, ça fait un peu étrange. Écoute, là, on est le 31 août et il y a 2 jours, c'était la rentrée scolaire. Et tout s'est très, très, très bien passé. Donc, pour Mélissa, qui a 8 ans, elle rentre en troisième année de primaire. Elle était un peu angoissée parce que voilà, elle avait peur de ne pas avoir de copine, qu'on se moque d'elle parce qu'elle a, elle a un accent français. Voilà. Donc, ça a super bien été. C'est Marc qui l'a accompagnée parce que moi, j'avais une formation le matin. Et en plus, je me suis dit, et Marc était d'accord avec ça, que si moi je l'accompagnais, peut-être qu'elle aurait eu plus d'appréhension, qu'elle aurait pleuré, ou voilà. Donc c'est toujours un petit peu plus difficile avec maman. Donc elle est sortie de l'école ravie, donc sa maîtresse, qu'on ne dit pas maîtresse d'ailleurs ici, c'est Madame Catherine. Et ils sont 13 dans la classe, elle a mangé, elle est partie toute fière avec sa boîte à lunch le matin. Voilà. Et puis Anaëlle, ben ça s'est bien passé aussi. Elle a rencontré ses nouveaux camarades. Elle connaissait déjà deux copines qui habitent près de chez nous. Donc le matin, je l'ai quand même accompagnée au coin de la rue pour prendre son autobus, là, le bus jaune, pour aller. Elle est en troisième année de secondaire, donc je l'ai accompagnée à l'autobus, tout simplement pour pas qu'elle se trompe d'autobus. Donc voilà, elle est montée dans son bus jaune. Et ouais, vraiment, ça fait bizarre parce que ça, c'est les trucs qu'on voit dans les films d'habitude. Hein, tu vois, au coin de la rue, prendre ton bus jaune. Donc, ça fait rigolo. Ouais. Et puis, ouais, non, ça s'est bien passé. Le système scolaire, ouais, c'est quand même pas mal différent entre ici et la France. Il laisse beaucoup d'autonomie assez jeune aux élèves. Et puis, ils font vraiment leur emploi du temps en fonction de leurs options, tout ça. Donc voilà, on va découvrir ça au fur et à mesure des prochains jours. Et moi, j'ai commencé officiellement le travail. Alors, je suis méga frustrée parce que je ne suis pas sur le terrain. En fait, j'ai des formations à faire. J'ai eu deux formations en présentiel quand même. Donc, c'était sympa aussi de voir des gens, des collègues. Et c'est des formations qui ne sont pas forcément pour les infirmiers étrangers. C'est pour tous ceux qui intègrent le réseau de la santé, quoi. Donc c'était intéressant, il nous explique en fait le fonctionnement, il nous montre les outils informatiques, et puis on fait des petits cas concrets et tout. J'ai quand même pas mal de travail parce que la façon de prescrire, les termes utilisés, les médicaments, tout ça c'est différent. Donc voilà, je lis quand même pas mal de choses, le soir je regarde un peu comment ça fonctionne, tout ça. Et puis voilà, donc c'est pendant 15 jours hein, les formations, il y a quand même beaucoup de formations en ligne à faire à la maison. Donc, sur l'hygiène, sur l'utilisation, je sais pas, des pousse-seringues électriques, sur la maltraitance, et puis un gros morceau sur les évaluations cliniques, parce qu'en France on ne fait pas ça, et au Canada si, les infirmières cliniciennes, donc c'est le titre d'emploi que j'occupe, font les évaluations des patients. Donc voilà, c'est pas du diagnostic, mais c'est vraiment faire tout un recueil de données et puis toute une évaluation physique et ou mentale de la personne. Donc, il faut que j'apprenne à l'auscultation respiratoire, l'auscultation abdominale, l'auscultation ORL. Donc, il y a pas mal de choses à voir et c'est très très intéressant cette formation. Donc, j'ai quand même hâte d'aller sur le plancher, comme ils disent ici, pour pouvoir pratiquer, quoi, et puis voir tout ça de mes propres yeux. Et Marco, comme tout le monde est rentré, lui, pour l'instant, il va commencer là, à se mettre à réfléchir plus profondément à ce qu'il veut faire, remettre ses idées en place pour son rendez-vous avec la personne qui s'occupe de l'emploi. Il a fait connaissance d'un gars qui habite vers chez nous. C'est le papa, en fait, de la copine d'Anaël. Et donc, il doit être vraiment intéressant comme copain parce que Marc va marcher avec lui alors qu'il ne marche jamais avec moi. Donc, voilà. Ils ont pu parler comme ça d'emploi, tout ça. Et puis, voilà, du fonctionnement ici, d'acheter une voiture, tout. Donc, voilà, il est content de pouvoir discuter aussi avec d'autres personnes que nous, parce que c'est vrai que quand tu vas à l'école ou moi en formation, même si c'est des rencontres en ligne, tu parles avec d'autres personnes, quoi. Donc voilà.
Comment je me sens Maintenant, là, pour l'instant, là, je suis bien. J'ai un travail avec vraiment des gens super, une équipe vraiment super. C'est un truc que j'avais jamais fait. Là, je suis magasinier. Et puis, tout le monde s'entend bien. C'est vraiment cool. Donc, je pense que, au dire de mes collègues, j'ai beaucoup de chance d'être tombé en fait dans cette entreprise-là, parce que ça contribue vraiment en fait à une intégration un peu en douceur avec des gens qui sont super ouverts. On commence maintenant à vivre un petit peu. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était encore vachement dans les achats. À chaque fois que la saison change, on découvrait en même temps. Il y a des choses que forcément, on n'anticipe pas tout. Et puis, on s'adapte sur le moment. On s'était quand même pas mal renseigné avant de venir. Le voyage avant aussi nous avait permis quand même de voir pas mal de choses. Donc, on va dire qu'on n'a pas été trop surpris sur plein d'aspects, les courses, etc. Mais voilà, qu'on a dû faire des petits ajustements en fait, sur la façon de faire les courses, etc., sur la façon de consommer. Et puis, à partir de cet été, je pense qu'on va plus, kiffer un peu là où on est, s'amuser un peu, pouvoir faire des choses un peu différentes, puisque au final, on est arrivé que l'été dernier, donc on n'a pas pu consommer l'été, en fait, comme on pourrait le faire une fois quand on habite quelque part ou quand on est en vacances. Donc là, je pense que cet été, on va pouvoir vraiment consommer l'été, surtout après l'hiver qu'on a eu. Moi, je suis musicien, donc tout ce qui est... J'habite à côté de Montréal. Il y a quand même plein de concerts, il y a quand même plein de choses. Mais dans le souci de l'organisation, etc., on n'avait pas trop le temps, en fait, d'aller dans tout ça. Donc, au final, maintenant, on va pouvoir, je pense, commencer à le faire. Là où je suis vraiment content, c'est que dans ce que je vis maintenant, en fait, tous les gens que j'ai rencontrés, j'arrive à me sentir à l'aise. Il n'y a pas eu un seul instant où je me suis dit « Ah ben non, c'était mieux en France, machin. » Enfin, je ne suis pas dans la comparaison. J'étais en France, maintenant je suis au Québec. Ça se trouve, je retournerai en France, ça se trouve, je ne retournerai pas. Je pense qu'en ayant cet état d'esprit-là, ça me permet de vivre en fait ce que je vis. Et puis ce que j'aime pas, j'aime pas. Et puis je recommence pas. Et puis ce que j'aime bien ou ce que je découvre en fait, je continue dedans quoi. Donc si j'ai un seul regret pour le moment, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. On est en Amérique du Nord quoi, donc au final il n'y a pas du tout la même façon de manger. Enfin on va dire que la bouffe c'est vraiment un truc qui marque quand même. Il faut vraiment se réhabituer, faut vraiment essayer plein de choses. Après, l'exigence en fait française au niveau culinaire fait que peut-être que dans beaucoup d'autres pays, effectivement, c'est pas comme ça. Et si on devait avoir un seul regret, ça, je pense que c'est commun à toute la famille, parce que même les filles, elles le disent. Au niveau de la bouffe, on n'est pas du tout habitué. Mais bon, ça va se faire petit à petit, et puis on va prendre nos habitudes aussi, et puis. Après, il y a peut-être un deuxième truc, mais ça va venir avec le temps. C'est plus au niveau des relations humaines, où moi, j'aime bien les gens. J'aime bien avoir un gros cercle de gens que je fréquente, que je peux rencontrer, avec lesquels je peux sortir et tout. Et forcément, à 6-8 mois, c'est pas un truc qu'on peut construire comme ça. Donc pour l'instant, le seul truc qui me ferait un tout petit peu tiquer, ce serait ça, en fait, c'est de ne pas avoir cette espèce de réseau amical où on peut sortir boire un verre, on peut aller faire ci ou faire ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore construit, ça va se faire, c'est en train de se faire. Vu que c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait, il y a un tout petit manque par rapport à ça, mais je ne suis pas inquiet. Sur ce truc-là, c'est pas complètement rédhibitoire, et puis ça va se faire.
Y a des choses qu'on fait en France, par exemple, qu'elles font pas ici. Mais en tout cas, faut savoir ce qui se fait ici. Et puis, j'ai commencé réellement que mi-septembre. Je viens de finir, mais j'en ai fait plus, parce que j'ai dû changer de service en cours de route, ce qui m'a beaucoup contrarié. Parce que j'étais dans le service des urgences. Et c'est difficile pour les filles de pouvoir encadrer des gens parce qu'elles sont tellement sous-effectifs. Normalement, je devais être avec une préceptrice et avoir que deux patients pour qu'elle m'explique les mille et une choses qui sont différentes. Sauf que on avait tout le temps cinq patients. Donc, elle a son travail à faire aussi. Donc, elle m'expliquait comme elle pouvait, la pauvre. Moi, c'est tellement différent que j'avais besoin, tu vois, de voir les choses, comment ça fonctionnait, tout ça. A posteriori, je me dis tout le monde n'est pas fait pour encadrer quand même. Hein.
Bah, comme de la même manière que tout le monde n'est pas fait pour être manager.
Exactement. Okay. Moi, la première chose qu'elle m'a dite après bonjour, c'est moi, je ne voulais pas faire ça, mais on m'a pris par les sentiments, donc bienvenue. Ok.
Donc, ah bah dis donc, je me sens bien, c'est clair.
Super, donc voilà. Et puis, il y a des choses, moi, je suis déjà infirmière en fait depuis longtemps. Donc, il y a plein de choses que je sais faire. Ce que je ne savais pas faire, ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est tout ce qui est l'administratif, comment ça fonctionne, le logiciel, comment ça fonctionne.
Forcément, c'est tout nouveau.
Les trucs des médicaments, tu vois, ils ont des délivrances de médicaments, c'est différent. Le nom des médicaments, mais j'avais mon petit... j'ai mes petits documents, tu vois, pour mes équivalences et tout. Puis j'avais potassé avant quand même. Je ne suis pas venue comme ça, les mains dans les poches, quoi. Mais j'avais l'impression des fois... d'être plus la stagiaire première année que l'infirmière expérimentée.
Ouais, c'est pas facile aussi pour toi de revenir un peu d'une certaine manière en arrière au début, quoi.
Ben, c'est pas facile, d'autant plus qu'on n'a pas le temps ou on ne prend pas le temps de t'expliquer. Par exemple, moi, je comprends hein, que ce soit difficile et très honnêtement, moi, il y a des fois où on m'a dit qu'il faut encadrer les stagiaires et j'ai dit non parce que tu n'as pas envie. T'es dans ton jus, c'est le bordel, et puis tu sais que ça va être compliqué, donc t'as pas envie de te prendre la tête, en fait, à encadrer un stagiaire. Et puis t'as pas envie de lui faire subir ton manque de patience aussi, il faut dire la vérité. Donc je sais que c'est hyper exigeant, et c'est pour ça qu'il faut pas donner ça par défaut à quelqu'un, en fait. Il faut que ce soit quand même cadré. Après, il y a le manque d'effectifs, ok. Mais un jour, je suis arrivée, puis il n'y avait personne pour me... Je ne pouvais pas travailler seule, je n'avais pas le droit. Hein. Donc, il n'y avait personne pour me... Donc, on m'a dit, tu vas faire facilitante. Donc, c'est la fille, tu sais, qui fait la petite main, quoi, tu sais, qui va aider à droite à gauche, ce qui ne me dérange absolument pas, franchement. On a besoin, c'est tellement une aide quand il y a quelqu'un en plus, il n'y a pas de souci. Ça ne compte pas dans les 75 jours. Donc, je le fais une fois. Bon, tu sais, je me dis, c'est pas grave, on n'est pas un jour près.
Il y a besoin d'un coup de main, mais ouais.
Il n'y a pas de souci. J'arrive le lendemain, pareil. Ben, je dis, bah non, du coup, je peux pas. Donc, ah, bah, va voir la chef. Ok. Je dis, ben voilà, machin. Bah oui, parce que machin, elle peut pas, parce que je l'ai envoyée ici. Qu'est-ce que tu veux faire, du coup? Tu veux rentrer chez toi? Ben...
Non, je veux...
Je veux faire mon stage, en fait. Je veux pas rentrer chez moi. Je lui dis, non, moi, j'ai besoin de faire mon stage. Donc, finalement, elle a trouvé quelqu'un avec qui ça s'est super bien passé. Je veux dire... Mais c'était tout était compliqué et je me suis tellement remise en question, Anne Fleur.
Ah ouais.
Mais tellement. Mais c'est normal hein, de se remettre en question. Mais c'est difficile parce que moi, je savais ce qui me manquait. C'était de prendre, tu vois, un patient en charge dans son entièreté et de faire tout de A à Z pour pouvoir comprendre chaque chose.
Bien sûr.
Ce qu'on ne me donnait pas pour X ou Y raison. Et c'est difficile. Donc, je sais que je sais pas ce qui a été dit sur moi ou comment ça a été fait. Tout. Je sais que la direction des soins infirmiers, elle m'a fait revenir sur un jour de formation. La fille, elle m'a pris toute seule. Elle m'a fait faire des petits cas concrets. J'ai pris ça un peu comme un test, savoir si c'est moi qui fonctionne pas ou quoi. À l'issue du truc, moi, je lui ai dit, franchement, je me remets beaucoup en question. C'est une période, c'est pas facile. Je sens que c'est difficile pour elle aussi, mais... Moi, j'ai besoin d'avancer aussi. Et c'était dur. Hein. Franchement, c'était dur. Elle me disait, bah, sinon, on va te changer d'étage. Je disais, non, moi, je veux... J'aime pas... Je voyais ça comme un échec, en fait. Je voulais pas...
Ouais, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal, finalement?
Et puis, je voulais pas qu'on croie que je ne sais pas faire. En fait, j'ai horreur de ça, en fait. Dans mon métier, je déteste profondément ne pas arriver à faire les choses ou qu'on croit que je n'y arrive pas alors que c'est pas vrai. Donc, j'ai persisté, en fait. Et puis, il y a eu d'autres choses, bref. Et puis, jusqu'au moment où la fille de la direction, elle m'a dit, écoute, non, là, maintenant, je vais te changer de service pour que tu réussisses. Elle dit, parce que là, tout ce que tu es en train de faire, c'est compliqué. Elle dit, alors que je sais que tu fonctionnes très bien, que tu as des connaissances et que, voilà, elle dit, c'est pas ça le problème. Donc, voilà, donc j'ai changé de service. J'ai été en chirurgie où j'ai une préceptrice super... super sympa et disponible, et ça s'est super bien passé, et avec mes collègues aussi et tout. Donc le problème, c'est que tu recommences, en fait, quand tu changes de service, tu recommences ton stage au début. Donc j'avais, entre guillemets, perdu, parce que c'est jamais du temps perdu, presque 3 semaines.
Ah, c'est quand même beaucoup. Enfin,
donc,
ouais.
Voilà, mmh. Donc ça m'a pris la tête.
Bien sûr, je comprends.
C'est les moments comme ça où tu te dis... quand tu vas y repenser, dans quelques années, ce sera rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Et puis, finalement, a posteriori, je me dis, c'était peut-être une chance, parce que moi, je m'étais dit, je vais aller travailler dans le service des urgences. Puis finalement, je pense que moi, j'ai été équipe volante pendant très longtemps en France, c'est-à-dire tu changes d'étage et je vais faire équipe volante ici. Je pense que c'est le poste qui me correspond le mieux, en fait. Il y en a plein qui ne veulent pas faire ça, mais moi, j'aime bien. Donc,
d'accord.
Donc, finalement, ouais. Mais je suis contente d'avoir terminé.
Bah ouais, félicitations.
Le stage, merci. Mmh. C'est la même chose, mais c'est différent. En fait, je fais un soin, c'est un soin, mmh. Un pansement, c'est un pansement. Sauf que je galère tellement avec les noms des pansements, c'est pas pareil et tout. Mais bon, bref. Donc, des fois, c'est rigolo. Hein. Franchement, on rigole trop avec les collègues sur des trucs. Franchement, elles me font des cours et tout. C'est trop marrant. Donc, les soins, on va dire, c'est la même chose. Mais je trouve qu'on a plus de responsabilités ici. C'est-à-dire qu'il y a des infirmières auxiliaires, ce qu'il n'y a pas en France. Et puis, elles viennent, tu vois, me dire, bah, Magali, là, il y a ça. Là, je ne sais pas comment est-ce que je fais. Et c'est toi qui prends la décision. Donc, bah, là, non, on ne va pas faire comme ça. Là, c'est bien comme tu as fait. On ne va pas faire comme ça. On va plutôt faire... plutôt comme ça, qu'est-ce que t'en dis et tout machin. Puis tu vois, ça en France, on va le faire entre collègues, mais c'est moins
c'est
prononcé
pas un process,
qu'ici quand même. Ouais, je trouve que c'est différent.
Bah super.
Et j'aime bien.
Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien, c'est génial.
Tout se passe bien.
Paris relevé.
On est content. Ouais, ça, franchement, c'est cool. On est bien content, on est content de l'endroit où on est. Ouais. Les filles, elles sont contentes. Mélissa, là, elle fait du patin à glace. Et puis, tu vois, c'est, je trouve que la vie, elle est simple. Moi, j'aime que tout soit à proximité. Là, par exemple, le patin à glace, franchement, non. Le réseau de la santé et moi-même, on n'a pas besoin d'une fracture. Donc, je ne fais pas de patin à glace. On verra l'année prochaine. C'est sûr, je vais tomber. C'est sûr, je vais me faire mal. Donc, c'est pas la peine de... Donc, je l'envoie sur la glace, seule, au bord. Et puis, je disais à mes collègues, ouais, j'aimerais bien quelqu'un qui lui donne un peu des cours, qui l'aide un peu et tout ça. Et puis, c'est le fils d'une de mes collègues, finalement, qui va à l'aréna avec
ouais,
elle
sympa.
Pour faire les cours de patin et tout ça. La neige. On n'avait pas trop eu de neige comparée à ce qui, normalement,
ce qu'ils annonçaient.
Existe.
Ouais.
Mais franchement, moi, j'appréhendais un peu. Je me disais, voilà, conduire sous la neige, déneiger sa voiture, ça fait chier et tout, machin. Bon, ça fait chier des fois, c'est vrai. Hein. Quand tu as fini
neiger,
ton
facile,
12 heures, bah, quand tu as fini tes 12 heures, en plus,
oh,
tu as plus envie d'aller sous ta couette.
Ouais,
franchement, Mais franchement, ça se fait. Ça m'a pas. Puis bon, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Tu veux partir chez toi, tu déneiges ta voiture, sinon
ouais,
tu restes au boulot.
Sinon,
quoi.
Tu bouges pas, toi.
Donc, non, c'est. Je trouve que c'est chouette. On a fait pas toutes les activités qu'on aurait aimé parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Mais je sais pas, on allait voir un match de hockey. Là, on attend la saison du baseball. Donc, tout plein de nouveaux trucs. C'est assez cool, ouais. Donc, voilà. Marc, il est content dans son travail. Il a trouvé un travail de magasinier préparateur de commandes. Donc, au début, il travaillait pas. Puis, c'était difficile parce que ben, tout le monde avait une activité, en fait.
Ouais.
Les filles, elles partaient à l'école. Moi, j'allais au travail. T'as quelque chose à raconter et tout. Puis, tu vis ta vie de l'immigration.
Ouais.
Puis bah, lui, il était à la maison.
Ah, ça n'a pas dû être facile.
C'est pas simple. Ouais. Donc là, il est content. Il a des collègues.
En fait, c'est avoir son environnement à soi, chacun.
Mais c'est ça.
C'est, je comprends. Ouais.
Ouais, puis,
que ce soit et puis surtout, en bossant ou pas en bossant, mais que vous ayez un truc qui vous est propre.
Bah surtout que l'immigration, tu vois, c'est, l'objectif, c'est de rencontrer, enfin, voir des nouvelles choses. Là, il voyait ce qu'on lui racontait.
Ouais, bien sûr, il vivait un peu ça par procuration.
Voilà, c'est ça. Et puis, donc, quand t'as pas ton propre univers, là, tu peux pas avoir d'interaction, finalement, avec les gens. C'est pas simple. Donc là, non, franchement, Annelle, elle a repris les compétitions. Elle a, comme en France, ses copines de la piscine, ses copines du secondaire. L'école, ça se passe.
Mais génial.
Donc, non, vraiment, on est super
positif
content.
Pour l'instant. Mais écoute, j'ai envie de dire, pourvu que ça dure.
Ouais, franchement, ce serait cool que ça continue sur cette lancée. Et c'est chouette.
C'est tout ce qu'on te souhaite, bien entendu. Si tu avais un petit truc que tu pouvais te chuchoter au creux de l'oreille à la Magali de mars 2022 qui m'écrit en disant « Anne Fleur, je vais peut-être partir au Canada !» avec le recul de ces 2 ans finalement qui se sont passés de préparation, d'adaptation, d'anticipation de plein de choses, puis finalement de vie, de nouvelle vie. Est-ce que, je sais pas, il y a des conseils qui te viennent un peu à l'esprit ?
Je me conseillerais de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire pas prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on peut lire de positif ou de négatif sur les réseaux, de bien faire la part des choses. Et je trouve qu'on était quand même bien, bien préparés à notre arrivée, donc d'avoir fait comme ça. Je pense que c'était une très bonne idée aussi d'être venu avant, parce que je pense que j'aurais eu des déceptions à certains points de vue.
Sur quel point de vue, par exemple ?
Par exemple, si j'avais dû choisir à distance, peut-être que j'aurais pas choisi
la ville dans laquelle vous êtes, ouais, d'accord.
Ouais, peut-être que... Je dis « je », comme si c'est pas moi qui ai choisi toute seule.
On sait que Marc, il serait allé n'importe où du moment que tu y allais.
C'est ça, voilà. Donc je pense que... Par exemple, si j'étais allée à Saint-Hyacinthe, après on vit n'importe où. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça aurait pas été un gros problème en réalité, mais bien se préparer. Et puis, qu'est-ce que je me conseillerais arrête de dire si, quoi.
Mais en même temps, ça a fait que t'étais bien préparée.
Oui, mais quand même, il y a une limite qu'on va dépasser.
Ouais.
On a eu raison de se faire confiance. Puis de se choisir, c'est pas facile. Zéro regret, vraiment.
Eh ben c'est génial. Merci beaucoup, Magali.
Merci à toi, Anne Fleur.
Je te souhaite.
J'ai parlé, j'ai beaucoup parlé. Hein.
Oui, c'était le but. Hein. C'est pour ça que je t'ai invitée. Parce que je vous souhaite à vous quatre de continuer sur cette lancée, de vous éclater,
beaucoup.
De continuer à être heureux avec votre décision. Et puis on suivra avec intérêt.
Merci à toi. Merci à toi pour French Expat, parce que moi qui n'avais pas trop écouté, j'ai avalé les épisodes après en me disant « Oh là là, mais vite, il faut se préparer, comment on fait ?» Donc, c'est bien parce que comme c'est suffisamment diversifié comme parcours, il y a des choses auxquelles tu ne vas pas
t'identifier.
Mais pour autant, c'est intéressant de les entendre parce que ça te permet de te préparer quand même.
Je suis trop contente que ça puisse servir dans la préparation. Alors.
ça a servi.
Top. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, cette fois c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Magali pour sa confiance au cours des 2 dernières années, pour toutes ses confidences et pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble il y a quelques semaines. Merci infiniment à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment et que les éclairages de Magali pourront vous être utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie ou encore sur les plateformes d'écoute en nous donnant 5 étoiles et en laissant un petit commentaire. Ça change tout. Ça nous aide énormément. La semaine prochaine, on prend la direction de l'Irlande. Je vous laisse découvrir tout de suite un petit extrait de ce qui nous attend.
Notre vie, en fait, commençait avec les filles, avec le Covid et tout ça, on commençait à se dire Est-ce que on sait ce qu'on veut, en fait? Est-ce qu'on veut juste se passer le relais le matin? Il dépose les petites à la crèche, je vais les chercher, on rentre, le dîner, machin. Comme beaucoup de gens, voilà, c'est comme ça, on a besoin de... Mais en fait, on n'était pas forcément heureux et on s'est dit, on va peut-être avoir quelques années super dures, expérimenter des choses de malade, mais au final, on aura notre petit bout de terre, notre petite maison, et puis
ouais, l'impression aura... de s'installer, voilà. Aussi quelque part et de... Ouais.
Voilà.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous retrouve donc mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.